que la recherche scientifique. Alors, qu'est-ce que la recherche scientifique ? Ça peut s'aborder de mille et une façons. Et moi, je vous propose de l'aborder à travers la seule chose que je connais, c'est-à-dire mon expérience personnelle. Je ne vais pas vous raconter ce qu'ont fait les anciens, même si on va en parler un petit peu, mais je vais essayer de partager avec vous mon expérience pour que vous voyez un petit peu, quand moi j'étais sur les bancs de l'école en seconde comme vous, comment est-ce que je me suis retrouvé à faire de la médecine et de la recherche. Alors d'abord, c'est où chez moi ? C'est l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Voilà où j'habite, mais c'est là où je travaille depuis bien bien longtemps. J'y ai fait mes études, donc ça fait quelques années. Donc dans le 13e arrondissement à Paris, c'est un grand hôpital avec un peu plus de 3000 lits d'hospitalisation et quasiment toutes les disciplines médicales et chirurgicales. Alors, j'ai voulu savoir où c'était chez vous, donc je suis allé voir un petit peu. Comme j'aurais pas le temps de trop visiter puisqu'on repart rapidement, ça m'a permis de me promener un petit peu à Armentières. Puis découvrir votre ville, voilà, tout ce qui se rattache à votre ville. Comme ça, j'ai fait connaissance avec la maman de Danny Boone. Et puis surtout, votre lycée. Alors votre lycée, j'ai appris que M. Paul Hasard était né le 30 avril 1878. Donc j'ai retrouvé des images de lui tout petit, puis encore un peu plus grand, et puis encore un peu plus grand. Et puis, probablement sur la fin de sa vie, puisqu'il est décédé en 1944. Avec une œuvre littéraire quand même assez riche, hein, puisqu'il a quand même œuvré dans différents domaines, en philosophie et en littérature. Il a fait pas mal de biographies, comme celle de Stendhal, de Lamartine. Donc, vous avez dans ce lycée un parrain qui est tout à fait illustre. Et donc j'ai appris qu'il avait été nommé à l'académie, mais qu'il n'avait jamais pu y entrer réellement, puisqu'il avait été nommé au début de la guerre, en 40, et qu'il est décédé en 44, donc il n'a pas eu le temps d'être admis à l'académie, même s'il y avait été élu. Alors, il a aussi fait d'autres, une préface, mais un livre un peu moins philosophique, et puis voilà, d'autres livres. Ah non, ça c'est pas lui, pardon. Je me suis trompé, c'est pas le même. Voilà, votre lycée, que j'ai découvert là en arrivant, mais que j'avais donc déjà vu sur quelques photos, avec différentes personnes qui y sont passées. Et puis, voilà, c'était aussi, voilà, j'ai essayé de faire le tour de vos spécialités. Alors, ce qu'on ne va pas faire aujourd'hui, ce que nous avions fait l'année dernière à Dunkerque, c'est que, parce qu'on n'a pas le temps, et vous êtes nombreux, c'est que j'avais demandé aux étudiants, sur un petit quart de page, de me donner la première idée ou la première image que vous évoque la recherche scientifique. Donc ça, on va pouvoir le faire à l'oral très vite. Et puis, au verso de cette petite feuille, quelle est la première discipline scientifique qui vous vient à l'esprit ? Mais dans la voiture, Madame Desmazières m'a expliqué que vous aviez déjà préparé longuement cet échange. Donc tout cela, finalement, vous l'avez déjà fait, les classifications des différentes sciences, le vocabulaire qui se rapporte à telle ou telle discipline. Donc ce sont des choses sur lesquelles on va passer vite. Et ce qu'on avait fait l'année dernière, c'est que les professeurs avaient contribué à analyser, à dépouiller rapidement ces petites fiches pour extraire un petit peu les questions principales. Alors s'il en était sorti, les premières images qui apparaissaient, c'était cela. Hein. Laboratoire, découverte, blouse, médecin, seringue, développement, équipe, microscope, médicaments, pipette, environnement, expérience, patience et ténacité, avenir, nouvelles technologies, le Centre National de la Recherche Scientifique, le CNRS, le fonctionnement de l'univers, la souris, l'innovation, les avancées, le doctorat, livres, chaînes, grandes écoles, nouveautés, expérience animale, connaissance. Voilà ce qui était sorti rapidement. Et puis, en termes de discipline, qui était apparu comme ça en première image, la physique, la biologie, les mathématiques, l'oscilloscope, c'était sorti, moi j'ai juste recopié, hein. C'est pas vraiment une discipline, la physique nucléaire, la nanotechnologie, l'astrophysique, la science de la vie et de la Terre, la chimie, l'astronomie, la microbiologie, la physiologie, la médecine, la paléontologie, l'astrologie, la spéléologie, la géologie, la biotechnologie, les biotechnologies et la cardiologie. Voilà ce qui était sorti de cette espèce de sondage rapide. Voilà, alors est-ce que, si je vous pose la question, si on revient en arrière, quelle est pour vous la première image que vous évoque la recherche scientifique, puisque vous en avez déjà débattu rapidement. première image qui vous vient. Pardon ? La police scientifique. D'accord, ouais, la police scientifique. Donc la partie police scientifique, médecine légale, d'accord. D'autres images ? Le laboratoire. Pour vous, c'est le laboratoire. Laboratoire de biologie, laboratoire de physique, peu importe. Le laboratoire. La paillasse, les instruments, la blouse blanche. D'accord. D'autres images vous viennent quand on parle de recherche scientifique, de science, de recherche ? Oui ? Alors maintenant, si on parle de discipline, discipline scientifique, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Je sais qu'on vous a parlé d'ethnologie, de sociologie, de quelles sont les disciplines qui vous viennent, sur lesquelles vous êtes attiré ou que vous évoque le mot recherche scientifique. Quelle spécialité, quelle discipline, quel domaine de recherche ou de science ? Oui ?
La médecine.
La médecine, d'accord. Vaste domaine. La santé en général, la médecine. La chimie. Médecine, chimie.
L'astrologie.
L'astronomie ou l'astrologie ?
Logie.
D'accord. L'astrologie.
La biologie.
La biologie. Médecine, chimie, astrologie. Ça, c'est à gauche. Côté droit, là. L'ethnologie. L'archéologie, voilà. L'astrophysique. Donc vous discuterez avec votre collègue qui veut faire de l'astrologie. Ça c'est pas enfin, qui veut faire. J'ai pas dit ça. Hein. Qui évoque pour qui le mot recherche évoque l'astrologie. La psychologie. Encore deux ou trois. L'archéologie. J'ai dit. J'ai vu une main là. Non ? Non, c'était juste un recoiffage. Voilà, donc vous voyez que déjà, comme ça, rapidement, juste en survolant, le panorama, l'extraordinaire diversité que représente ce que l'on appelle sous un terme générique la recherche scientifique. Ça couvre une immensité de domaines, quasiment pas illimité, mais difficile à lister. Donc ça déjà, il faut être conscient de ça. Alors comment est-ce qu'on va fonctionner pendant l'heure un quart que nous avons devant nous ? On va essayer de voir quelles sont vos attentes. Est-ce que vous avez des attentes en termes d'orientation ? Probablement. Est-ce que ce sont des questions en termes de cursus, de curriculum qui vous intéressent, que vous posez ? En termes d'emploi ? C'est bien beau d'avoir un intérêt particulier, encore faut-il qu'il y ait du travail avec. En termes de plan de carrière, de progression ? Quel est le quotidien, peut-être c'est ça qui vous intéresse, la vie quotidienne de telle ou telle recherche, ou du chercheur, et quelle est la part de rêve dans ces métiers, etc. Et puis, moi, la seule contribution que je puisse vous apporter, encore une fois, c'est, à titre très personnel, mon propre parcours, dont je peux vous parler éventuellement, mais qui, encore une fois, est un parcours parmi des centaines de milliers, donc c'est certainement pas quelque chose de général. Mon expérience, mon vécu, et puis surtout, mes convictions et mes doutes par rapport à ces disciplines de la recherche. Donc si vous êtes d'accord là-dessus, on démarre et on fixe quelques objectifs. Le premier, c'est d'entrevoir l'étendue des sciences, l'immense variété. On vient d'en parler un petit peu, on va rentrer un petit peu plus dans le détail tout à l'heure, en particulier en reprenant un peu l'histoire des sciences. Montrer un aperçu de la vie des chercheurs, que vous soyez prévenus. Un homme averti en vaut deux. Il faut savoir ce qui vous attend lorsqu'on fait de la recherche. Il y a beaucoup de positifs, mais il n'y a pas que cela. Essayez de vous donner envie, évidemment. Je ne suis pas venu là pour vous décourager, au contraire, hein, pour vous inciter. Mais vous inciter, mais vous éclairer en même temps, que vous soyez lucide. Convaincre de l'omniprésence de la science dans le quotidien, mais ça, je pense que vous en êtes convaincu. Vous êtes surtout, en plus, vous, une génération qui vivait avec la technologie, et la haute technologie en particulier de communication. Donc, je pense que vous êtes conscient que la science, elle est dans notre quotidien du matin au soir. Et puis, l'objectif aussi, c'est qu'on parle pendant une heure et demie de science, et tout en passant un bon moment, sans que ce soit rébarbatif. Alors, voilà, une allégorie de la recherche, voilà, c'est l'image que se font les anciens, la recherche, un peu vue comme une déesse. Hein. On peut déifier la recherche et en faire une entité de cette nature. Si on place le mot recherche scientifique, hein, puisqu'il y a le mot recherche scientifique dans cet échange qu'on va avoir aujourd'hui, en fait la science est au centre, est au carrefour, de ce carrefour où on peut avoir la recherche qui vient alimenter la science, mais la philosophie qui est en lien avec la science, les technologies qui sont les conséquences appliquées de la science, la politique et la science, évidemment, on ne peut pas faire l'impasse, et puis la sociologie et la science. Donc, la science au service de la sociologie et la sociologie des scientifiques. Alors on va lire ensemble quelques petits textes comme ça que vous allez vous imprégner. Ça c'est un texte du professeur Papon qui est professeur à l'école de physique et chimie de Paris et président de l'Observatoire des sciences et des techniques. Il dit cela, on va le lire ensemble. L'homme a toujours voulu comprendre le monde et la société dans lesquelles il vit, et ce depuis plusieurs siècles, et c'est la recherche scientifique qui tente de répondre à ce besoin, à cette quête. Donc la recherche a d'abord une dimension culturelle finalement. Le but est de connaître et de comprendre la nature, mais comme elle rend possible jusque dans ses aspects les plus fondamentaux la maîtrise de cette nature, en tout cas elle tente de maîtriser cette nature, avec du positif et parfois du négatif, elle est aussi un enjeu de puissance autant que de pouvoir. Ça, c'est le rapport entre science et pouvoir, qui est loin d'être négligeable. La science et la technologie, qui en est la fille naturelle, ont provoqué des mutations profondes dans nos sociétés, d'abord en changeant notre vision du monde et en changeant nos modes de vie. Ce sont devenus des composantes, la science et la technologie, des composantes essentielles de l'activité humaine dans les sociétés modernes. Voilà, première réflexion sur la recherche scientifique. Une autre réflexion sur la responsabilité sociale des scientifiques. La responsabilité de la science et de ses acteurs, donc des chercheurs, au regard de la société, ne serait pas un problème si la science n'avait qu'un impact que modéré sur la vie des hommes et sur la planète. Or, ce n'est pas le cas. La science a un réel impact sur l'humain et sur notre planète. Donc, et ça depuis, facilement un demi-siècle. Donc, aujourd'hui, on est en droit de s'interroger sur ce rapport entre la science et la société. Il faut que les scientifiques soient conscients de cela. Alors là, il s'agit de Pierre et Marie Curie, qui avait obtenu le prix Nobel de physique pour avoir découvert des substances radioactives en 1903. D'ailleurs, ils avaient obtenu ce prix Nobel partagé avec Henri Becquerel. Ils étaient à trois à avoir obtenu ce prix Nobel de physique en 1903. Et en 1911, Marie Curie a obtenu le prix Nobel de chimie, comme assez rare dans une carrière qu'une même personne obtienne un prix Nobel de physique. Et puis 7 ans plus tard, un prix Nobel de chimie. Ça ne s'est jamais vu depuis. Mais c'était Marie Curie. Et donc, on peut imaginer pourquoi, mais malheureusement, elle n'est jamais rentrée à l'Académie des sciences. Alors qu'elle avait 2 prix Nobel. Voilà. Le sexisme change un petit peu, mais à l'époque, il était bel et bien là. Alors, science et société, on ne peut parler des rapports entre la science et la société sans qu'on ait défini ce que c'est que la science. Donc si l'on admet que les phénomènes naturels obéissent à des lois, et que ces lois peuvent être connues, et que c'est le rôle des sciences que de découvrir ces lois, on peut dire que la science, finalement, c'est l'ensemble de la connaissance des lois, des processus naturels, à un moment donné, ce que l'on sait au jour J de ces lois. Et en disant cela, on entend que l'homme fait partie de la nature. Nous faisons partie de la nature et que notre comportement et notre activité, à titre individuel, vous parliez de psychologie tout à l'heure, ou à titre collectif, on obéit également à des lois. Or, il faut pourtant savoir faire une distinction, c'est ce que dit Federico Maior et Evry Schatzman, il faut faire une distinction entre les sciences de la nature, vous avez parlé d'astrologie, d'astrophysique, de chimie, de médecine, de biologie, ça, ce sont des sciences de la nature, l'archéologie, et puis les sciences humaines, on a parlé tout à l'heure de psychologie, de sociologie, d'ethnologie, voilà, ce sont des sciences humaines, il faut faire la différence malgré tout, ce sont des domaines assez distincts, en termes de définition, de mode d'élaboration. Voilà. Donc il y a des différences assez considérables entre ce qu'on va classer comme dans les sciences de la nature et les sciences humaines. Alors là, je voudrais vous démontrer, mais je pense que vous en êtes convaincus, mais le redire que la science telle qu'on la vit aujourd'hui en 2012 est la résultante d'un processus continu et planétaire. Ce n'est pas le résultat de 50 ans de science occidentale, de recherche occidentale. C'est le résultat de plusieurs millénaires d'activités de recherche scientifique par des humains qui ont vécu dans tous les continents, dans tous les pays et dans différentes cultures. Alors on va prendre l'exemple de l'Inde, de l'islam, pardon, la civilisation islamique qui est très riche en termes de mathématiques. Et ça c'est un petit extrait du Barbier, pardon. Le Barbier dans Les Mille et Une Nuits. Est-ce que vous avez lu Les Mille et Une Nuits?
Non.
Personne?
Non.
Alors dans Les Mille et Une Nuits, vous avez le Barbier qui dit ça. Et vous avez en ma personne le meilleur barbier de Bagdad, un médecin expérimenté, un chimiste très profond, un astrologue qui ne se trompe point, un grammairien achevé, un parfait rhétoricien, un logicien subtil, un mathématicien accompli dans la géométrie, dans l'arithmétique, dans l'astronomie et dans tous les raffinements de l'algèbre, un historien qui sait l'histoire de tous les royaumes de l'univers. Outre cela, je possède toutes les parties de la philosophie, j'ai dans ma mémoire toutes nos lois et toutes nos traditions, je suis poète, architecte, etc. Voilà, ça c'était la description que faisait dans Les Mille et Une Nuits le personnage du Barbier. Et c'est assez représentatif, ça illustre assez bien ce qu'était jusqu'à il n'y a pas très longtemps la fonction et le rôle du scientifique. Aujourd'hui, nous sommes dans des sciences de plus en plus ciblées, de plus en plus limitées dans nos domaines de recherche. À une époque, le scientifique, il touchait pratiquement à toutes les disciplines, y compris aux sciences de la nature et aux sciences de l'humain, aux sciences sociales. Il était à la fois physicien, philosophe, quand il n'était pas en plus artiste, peintre, architecte, etc. Donc, ça, c'est une époque qui est aujourd'hui révolue, mais il faut comprendre qu'à une époque, on a eu des grands esprits et des génies qui pouvaient passer d'une discipline à l'autre. Voilà, ça c'est une idée de la géométrie euclidienne assez simplifiée. En Inde, l'histoire des sciences, au sens où nous l'entendons en Occident, a bénéficié d'apports spécifiques de l'Inde, au moins dans trois domaines, l'astronomie, les mathématiques et les sciences médicales. En revanche, pas trop la physique. Et donc la médecine, qui n'est pas sans parenté avec la médecine d'Hippocrate, donc occidentale, en Inde est fondée sur la théorie des humeurs. Elle reste pré-scientifique, elle n'est pas réellement de nature scientifique, mais elle a suscité une telle masse d'observations et de méthodes de classification qui sont aujourd'hui encore intéressantes. Vous parlez de médecine tout à l'heure, la médecine ayurvédique indienne est quelque chose qui est de plus en plus étudié aujourd'hui. Voilà, donc simplement pour comprendre que là aussi on a des apports très riches de la part de civilisations comme la civilisation indienne. La Chine, évidemment, comme pour d'autres civilisations, plus on remonte dans le temps, plus il est difficile de préciser ce qu'est la science, mais la science chinoise, c'est une idée, une découverte, une méthode chinoise qui joue un rôle dans la science actuelle. Et voilà, on sait aujourd'hui que 1000, 2000, 3000 ans avant notre ère, des chercheurs travaillaient en Chine dans différents domaines. Par exemple, le premier sismographe a été connu au tout début de notre ère, au 1er siècle. Il y a eu des géophysiciens, des alchimistes, des biochimistes qui ont travaillé. Donc la civilisation chinoise a été très riche et très productive en termes de science. Alors la notion de controverse, on va y arriver après, vous allez voir que c'est quelque chose de très ancien et qui fait encore aujourd'hui le lit de la recherche et qui fait aussi un peu le quotidien du chercheur. C'est pour ça que c'est important de l'évoquer. Les controverses, hein, le fait des désaccords, des débats, ont toujours fait partie de l'avancée des sciences. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose. Elles sont absolument indispensables à la formation, au progrès, au développement, à l'évaluation et à l'évolution des théories, des méthodes, à la constitution et à l'interprétation des données. D'accord. Et certains auteurs considèrent même la science comme une succession ininterrompue de controverses qui perdurent ou qui sont reformulées. Vous savez que dès qu'une théorie est démontrée, il y a toujours immédiatement d'autres scientifiques de la même génération qui viennent mettre en doute cette théorie, la contester. C'est vrai de toutes les théories en physique, en biologie, dans tous les domaines. Il y a une contestation systématique et c'est ça qui fait avancer la recherche et qui génère le progrès. Bon, ça, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, l'époque de Galilée, que je n'ai pas bien connue moi non plus, mais voilà, à l'époque, il y avait aussi la religion qui intervenait dans la science. C'est-à-dire qu'il y a des théories que les scientifiques ne pouvaient pas développer ou avancer, car elles étaient en opposition avec ce que la religion édictait comme la vérité. Et certains y ont payé de leur vie, quoi. Voilà, ça c'est une autre petite invention, celle du paratonnerre. Alors, est-ce qu'il y en a qui aiment bien un peu les mathématiques? Vous êtes dans des cursus plutôt sciences, non? Si on m'a bien informé. Alors, vous avez de quoi écrire. Vous allez résoudre cette petite équation. Il me faut... Alors, c'est très simple. L'énoncé est très simple. J'ai une certaine longueur, là, que j'appelle le tout. Et je veux savoir quelle est la longueur de ce grand morceau, cette grande pièce là, X, de telle sorte que, peut-être te déplacer un peu, de telle sorte que la proportion de X par rapport au tout est égale à la proportion du reste par rapport à X. Quel est le rapport qui fait que la partie X, le grand bout de ma ficelle, soit en proportion par rapport au grand morceau, ce qu'est le petit morceau par rapport au grand? Je veux que le rapport de ça sur le total soit égal au rapport de ça sur celui-là, du petit sur le grand. Ça va? Allez, faites-moi l'équation. Donc ça s'écrit comment? Je veux que le rapport du grand morceau sur le tout soit égal au rapport du petit morceau sur le grand. X sur... Donc le tout, on va l'appeler 1. On va faire plus simple. Hein. D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait de la craie? Donc X sur 1 égale... Oui? J'ai entendu? Égal, pas tout à fait, ça c'est quoi? 1 moins x? D'accord? Divisé par x. D'accord? Voilà, ça se résout aussi simplement que ça. Le rapport du grand morceau sur le tout, x sur 1, doit être égal au petit morceau sur le grand. Le petit morceau c'est 1 moins x sur x. Et ça s'exprime comment? Sous forme d'une équation. Donc x carré plus x moins 1 égale 0. D'accord? Ben, vous faites le produit des extrêmes, vous mettez tout d'un côté. D'accord? D'accord? Et ça, c'est une équation du second degré. Donc je veux résoudre. Delta égale B2 moins 4AC, vous connaissez les racines, d'accord? Et vous obtenez ceci. c'est que le résultat, c'est racine de 5 moins 1 sur 2. Voilà, on a fait ça en 30 secondes. Eh bien, racine de 5 moins 1 sur 2, c'est ce qu'on appelle le nombre d'or. C'est ce nombre, cette espèce de rapport parfait qu'ont utilisé les architectes, qu'ont utilisé les peintres, qu'ont utilisé tous les gens qui travaillent dans l'esthétique, les proportions, voilà. Donc le nombre d'or, c'est cela. Il vient de cette idée qu'il fallait que les proportions soient équilibrées. Vous avez déjà entendu parler du nombre d'or ou ce qu'on appelle la divine proportion, non ? Nombre d'or, jamais ? Eh bien voilà, c'est fait. Alors d'autres questions se posaient à une époque. Comment carrer, comment dupliquer, comment trisecter ? Trisecter, c'était comment, avec un compas, créer le tiers d'un angle. Vous savez faire la moitié d'un angle avec un compas. Vous savez faire ça. Prenez un angle avec un compas, vous savez comment trouver la moitié de l'angle. D'accord ? Trouver le tiers de l'angle. Difficile. Ne vous inquiétez pas, si vous n'y arrivez pas, c'est que beaucoup de scientifiques à l'époque se sont cassés les dents. Comment également faire la quadrature du cercle ? La notion de quadrature du cercle, quelle est la distance du côté d'un carré qui fasse que la surface du carré soit équivalente à un cercle connu. Donc vous avez un cercle, une certaine surface, et quel est le carré qui correspond à la même surface ? Voilà. Là, vous avez un cercle qui a une certaine surface, je ne sais pas, 2 mètres carrés par exemple, et vous cherchez un carré qui fasse 2 mètres carrés. D'accord ? Alors là, 2 mètres carrés c'est facile, mais d'accord ? Donc comment trouver l'équivalence entre la surface d'un cercle et d'un carré? Voilà des questions que se posaient les anciens. Et alors ça paraît tout à fait anecdotique, mais c'était des espèces de défis que se lançaient les chercheurs à l'époque, et ce à travers toute l'Europe. Hein. Il n'y avait pourtant pas d'SMS, ni d'iPhone, ni de quoi que ce soit. Puis ils s'envoyaient des courriers, des missives, et ils se lançaient des défis comme ça. Hein. Et beaucoup de progrès ont eu lieu grâce à ce genre de défis, voire de jeux. Puisqu'à l'époque, ils jouaient beaucoup aussi. La notion de pari a beaucoup fait avancer, par exemple, la science des probabilités. Les probabilités sont nées d'échanges qu'il y avait entre Blaise Pascal et le chevalier Fermat, qui s'envoyaient comme ça des défis. Et si je lance tel dé, combien de fois je vais avoir le double 6, etc. Et combien il me faudra de tirages sur des cartes, etc. Donc, c'était des échanges à l'époque très fréquents entre les chercheurs. Là, c'est une question intéressante, c'est Archimède et l'orfèvre tricheur. Archimède avait été appelé par je ne sais plus quel roi, parce que le roi s'était fait faire par un orfèvre une couronne en or. Il avait payé très cher l'orfèvre pour faire une couronne en or. Et puis il y a eu des fuites qui ont laissé penser qu'en fait cet orfèvre, ben, il n'aurait peut-être pas mis que de l'or. Il aurait essayé de se faire payer la couronne en or pur, mais en fait il aurait peut-être utilisé des alliages pour essayer de gagner, de faire un peu de marge. Donc le roi furieux, mais ne sachant comment prouver si c'était de l'or ou pas, appelle Archimède. Et comment auriez-vous fait pour vérifier si la couronne était en or ou pas ?
Il allait se baigner dans l'eau,
non ? Oui.
Sinon, c'est à côté de l'eau.
Alors la première idée, c'était, si c'est de l'or, c'est plus dense qu'un alliage. Un alliage, c'est moins dense que de l'or. Donc si c'est moins dense, ce sera plus volumineux. L'alliage sera plus volumineux que l'or. Donc si on met la couronne dans une bassine d'eau, on met d'abord la couronne d'or avec une bassine qui est à ras. Donc en mettant la couronne, ça va évacuer le trop-plein correspondant au volume de la couronne en or. Et puis après on retire la couronne en or, on met la couronne qu'a fabriquée l'orfèvre. Si elle est effectivement en alliage, donc plus volumineuse, il y a encore de l'eau qui va sortir de la bassine. Ça, c'était la théorie. En fait, ça ne pouvait pas marcher parce que le delta est trop fin et puis ensuite, il y a toutes les gouttelettes qui sont attachées par tension de surface. Donc, en fait, ce n'est pas ça qu'il a fait. Il a pris une balance. Il a mis l'équivalent en poids d'or vrai de la couronne et la couronne pour vérifier si elle était effectivement en or dur, pur ou si elle était en alliage. Il a cherché à faire l'équilibre entre les deux plateaux. Une fois qu'il a obtenu l'équilibre entre les deux plateaux, il a pris l'ensemble du dispositif, c'est-à-dire y compris la balance et les deux plateaux, il a immergé le tout dans de l'eau, Et là, effectivement, si la couronne était en alliage, à ce moment-là, elle serait montée sur son plateau. D'accord ? Voilà une démonstration parfaite, alors qu'ils n'avaient pas de moyens de spectrométrie de masse, ils n'avaient pas de moyens autres que des moyens physiques de base pour vérifier la nature du métal. Voilà, alors on a tout un tas d'histoires comme ça très intéressantes. Celle-là, je l'ai racontée dans le train à Céline tout à l'heure. Les deux médecins qui réclament quelques têtes, c'est assez terrible comme histoire, mais ça va vous montrer aussi l'esprit scientifique et dont s'affranchissaient, enfin, et les aspects éthiques dont s'affranchissaient certains médecins de l'époque, et jusqu'il y a peu de temps d'ailleurs. C'était un combat entre le duc de Montmorency et le roi Henri II. Il s'était fait un tournoi, les tournois à l'époque, à cheval avec les grandes lances. Et le duc de Montmorency a empalé sa lance dans le crâne d'Henri II, qui était le roi de l'époque, qui n'est pas mort sur le coup. Et donc on a aussitôt appelé les deux chirurgiens de l'époque, Ambroise Paré et puis, je ne sais plus comment, Vessal, et qui se sont penchés sur le roi, et qui ne savaient pas, ils n'avaient jamais vu ce genre de blessure, de traumatisme crânien. Donc comme ils ne savaient pas que faire, ils ont pris des prisonniers, et ils leur ont imposé la même blessure pour expérimentalement voir ce qui se passait, comment on aurait pu sortir le roi. Vous voyez un petit peu le genre de démarche. Donc voilà, c'est de la démarche scientifique. On oublie ça bien évidemment, puisque en termes éthiques, c'est une horrible démonstration. Voilà, bon, l'abjuration de Galilée, vous savez tous que Galilée a été obligé d'abjurer, de dire non, je n'ai jamais dit, effectivement, je reviens sur mes propos, c'est bien la Terre qui est au centre et le Soleil qui tourne autour et non pas le contraire. Et puis après des jours et des semaines de procès, et puis d'ailleurs il a été mis d'abord en prison, puis assigné à résidence, jusqu'à la fin de sa vie d'ailleurs. En sortant du procès, il a marmonné à ses collaborateurs, et pourtant il tourne. C'est-à-dire qu'il avait avoué devant tous les archevêques de l'époque qu'il avait tort, mais finalement à ses disciples, il leur a dit « et pourtant elle tourne ». Donc il était vraiment certain de ce qu'il avançait. Voilà, c'est Louis XIV ici qui avait demandé à ses scientifiques de l'époque de faire une cartographie précise du royaume de France. Il voulait vraiment, avec des techniques un peu nouvelles, puisqu'à l'époque on utilisait la rotation des satellites de Jupiter pour mieux préciser le temps et donc l'espace. Donc ça permettait d'affiner un petit peu les distances. Il s'était aperçu d'ailleurs qu'il y avait plusieurs dizaines de kilomètres d'erreur entre Paris et Brest, par exemple, à l'époque. Il s'était trompé de plusieurs dizaines de kilomètres. Donc les cartographes et les mathématiciens de Louis XIV ont redessiné le contour du royaume de France. Ils l'ont apporté au roi. Et le roi a eu ce mot assez amusant en disant « Mais mes cartographes ont réduit mon royaume plus que n'importe quelle guerre. » C'est-à-dire que rien que par des calculs, effectivement, ça avait largement rétréci, puisque les calculs d'avant donnaient des surfaces en excès. Voilà, il y a tout un tas d'histoires dans la science comme ça. Pas de femme à l'académie, c'est ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure. C'est Marie Curie, double prix Nobel, de chimie, de physique d'abord et de chimie, qui n'est jamais rentrée à l'Académie des sciences. La façon dont Fleming a découvert la pénicilline, de façon accidentelle. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui est intéressant dans cette histoire, vous savez tous comment ça s'est passé, hein. Il avait son laboratoire qui était un vaste foutoir, il cultivait les staphylocoques, et puis il cherchait absolument des agents qui pouvaient lutter contre des microbes, on appelait par ça des antibiotiques à l'époque. Donc il était dans cette démarche de recherche. Et puis il ferme son laboratoire quelques jours pendant l'été, et quand il revient, il s'aperçoit que les cultures de staphylocoques qu'il avait laissées au bord de la fenêtre, eh bien, un certain nombre de cultures ne poussaient plus, de staphylocoques ne poussaient plus dans la gélose. Et en fait, c'est qu'en les laissant au bord de la fenêtre, il y avait eu des spores de champignons, de pénicillium qui est arrivé, et le pénicillium avait poussé, et le pénicillium avait tué et empêché les staphylocoques de pousser. C'est comme ça qu'on a découvert la pénicilline. Sauf que si c'était arrivé à n'importe quelle personne qui ne travaillait pas sur le sujet et qui n'était pas dans cette démarche scientifique, ça aurait été pris pour un accident de laboratoire, une erreur. On aurait dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Ça pousse plus, on jette. D'accord? Donc ce qui est important, c'est pas tant le côté du hasard de la découverte, c'est le fait que le hasard a été pris au vol, la balle a été prise au bon par quelqu'un qui était dans une démarche de recherche. En fait, c'est la démarche, cette curiosité, et on en parlera tout à l'heure, qui fait aussi la recherche. On peut en parler tout de suite, c'est, à mon avis, l'un des paramètres et l'un des critères essentiels, si on veut s'intéresser à la recherche, il faut être curieux. Et être curieux, ça veut dire aussi savoir être iconoclaste. C'est-à-dire savoir ne pas accepter systématiquement tout ce que l'on vous dit. Savoir avoir un esprit critique. D'accord ? Être curieux, avoir un esprit critique, c'est oser remettre en cause des choses si vous ne les sentez pas intuitivement ou si, après démonstration, vous apercevez qu'il y a des lacunes. C'est un état d'esprit qu'il faut avoir systématiquement si vous faites de la recherche. Il faut avoir une certaine, j'allais dire, insolence par rapport à la connaissance. Alors ça, c'est du vécu personnel, mais je partage avec la plupart des collaborateurs. C'est le parcours du combattant, du chercheur. Quand on démarre une recherche, une thématique, on fait ce qu'on appelle l'état de l'art. En anglais, le state of the art. C'est que sait-on du sujet au moment où je me penche dessus. Voilà. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur cette thématique. Donc ça prend beaucoup de temps. Et très souvent, enfin assez souvent, on s'aperçoit qu'en finalement, si on remonte assez loin dans la littérature, si on interroge les collègues un peu partout dans le monde, on s'aperçoit que la question qu'on se pose, ben, finalement la réponse existe déjà. Il faut aussi avoir l'humilité de se dire, ben, ma question n'était peut-être pas si géniale que ça, d'autres se la sont posées avant moi, et même d'autres y ont déjà répondu. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, il faut savoir se fixer des objectifs extrêmement précis. Alors, ça va peut-être un peu à l'encontre de ce que je vous disais tout à l'heure. Les grands génies, nos anciens, travaillaient dans des disciplines, encore une fois, ultra variées. Ça n'empêche que pour une recherche donnée, il faut savoir être très spécifique. Il faut savoir cibler sa recherche. On ne peut pas répondre à toutes les questions en même temps. Donc, il faut savoir se limiter. Et c'est en formulant précisément sa question que parfois, on arrive aussi à s'apercevoir de sa pertinence ou de sa moindre pertinence. La troisième étape, c'est, d'accord, l'état des connaissances aujourd'hui fait que c'est intéressant de s'intéresser à ce thème, que l'objectif est pertinent, qu'il est limité. Est-ce que c'est faisable ? Voilà. Il y a probablement des astrophysiciens qui aimeraient avoir beaucoup de connaissances sur des planètes lointaines. C'est probablement pas faisable aujourd'hui. Donc, la notion de faisabilité est un point fort, d'autant plus que la faisabilité est liée au budget. La recherche, à moins que vous fassiez de la recherche uniquement mathématique, théorique, là c'est juste vos neurones et un ordinateur, éventuellement, mais sinon très vite la recherche va faire dépenser de l'argent. D'accord ? On peut dire que à long terme, à l'échelle d'une société, ça peut être bénéfique, ça peut être rentable si on investit au long cours. Mais au temps présent, la recherche, ça coûte à la société. D'accord ? Il faut payer les chercheurs, il faut payer les dépenses de la recherche et ça ne rapporte pas dans l'immédiat du tout. Hein. Ce n'est pas du business. D'accord ? Ça peut rapporter dans quelques années ou quelques décennies plus tard s'il y a des brevets, qu'il y a des choses. Bon. Mais dans l'instant T, la contingence économique de l'instant T, la recherche, c'est une dépense. Et donc, si vous vous lancez dans une recherche, ça suppose d'avoir des crédits et des fonds. Et par les temps qui courent, c'est de moins en moins facile. Donc, est-ce que votre recherche reste faisable dans le contexte dans lequel vous travaillez ? Après, il y a toute une phase que je résume là sous le terme de yo-yo. Vous allez ramer. C'est-à-dire que vous allez ramer contre le courant. Je ne sais pas si vous avez déjà ramé sur une barque. Oui ? Voilà. Et ramer contre le courant ? C'est dur. Hein. Donc, voilà, c'est ça la recherche. Vous allez avoir de temps en temps des phases plutôt positives. Vous allez trouver des choses, ça va progresser, vous avez l'impression que vous êtes sur la voie. Et puis, paf ! D'un seul coup, vous avez des expériences ou des données ou des informations qui vont venir complètement contrecarrer et vous faire reculer complètement. Et il faudra recommencer, etc. Et on avance et on recule, sans arrêt. C'est une série d'échecs, de succès, et très souvent beaucoup plus d'échecs que de succès. Dans une vie de chercheur, on passe son temps à ne pas trouver. Et de temps en temps, par chance ou par pugnacité, finalement par trouver quelque chose. Donc il faut être conscient de ça. Si vous vous lancez dans la recherche, il faut être conscient qu'il faut avoir cette niaque si vous voulez continuer et y croire. Après, une fois que vous avez trouvé, vous avez eu quelques succès et que vous avez trouvé quelque chose, il faut vérifier que ce soit reproductible. Donc vous le vérifiez, puis il y a aussi d'autres collègues qui vont se charger de vérifier. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, quand je le refais, ça ne marche pas. Donc il faudra passer par cette phase de vérification de la reproductibilité. Puis après, il y a tout ce que j'appelle le calvaire du processus de publication. La récompense du chercheur, c'est la publication. La monnaie d'évaluation d'un chercheur, c'est la publication. Quand on évalue un chercheur, on regarde combien il a publié d'articles, dans quel type de revue. Les revues ont ce qu'on appelle des facteurs d'impact. La qualité de la revue, donc elles sont cotées, il y a des cotes. Et puis ensuite, la fréquence avec laquelle votre publication est réutilisée, citée par d'autres chercheurs qui font d'autres publications. On a des indicateurs qui nous donnent une espèce de numéro. Voilà. Je ne sais plus actuellement, je crois que j'ai une cote 21. J'ai des collègues qui sont à 62. Voilà. Prix Nobel, ils tournent autour de 60, 65. Voilà, on a une cote en fonction du nombre de publications qu'on a fait, de la qualité des revues dans lesquelles on a publié, de la fréquence avec laquelle nos publications sont recitées par d'autres. Voilà. Et donc ça, c'est international, hein, c'est universel. Donc ça veut dire que on peut trouver n'importe quoi d'extraordinaire, si ça n'est pas publié, ça ne compte pour rien. Or, pour pouvoir publier, encore une fois, c'est un calvaire, c'est-à-dire que il faut passer par des étapes complexes, et en particulier passer par, après les aspects techniques dont je vous fais grâce, il faut passer devant ce qu'on appelle des reviewers, des relecteurs, qui sont ce qu'on appelle vos pairs, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans le même domaine que vous, de par le monde, et qui sont normalement pas en conflit direct, compétitif avec vous, mais ils le sont toujours, évidemment, puisqu'ils sont sur le même sujet, et qui vont relire de façon anonyme votre publication et dire à l'éditeur de la revue ce qu'il pense de votre publication. Si elle doit être jetée à la poubelle tout de suite, si elle peut être publiée immédiatement parce que c'est absolument génialissime, ou s'il y a beaucoup beaucoup de choses ou un petit peu de choses à revoir ou à refaire. Et donc tout le travail est un échange comme ça entre ce qu'on appelle les reviewers, les relecteurs, et vous, et ce sont eux qui vont vous dicter la marche à suivre jusque si possible le diktat final qui sera « Ok, vous pouvez publier ». Et puis ensuite, il y a le risque de se faire doubler. C'est-à-dire que quand vous travaillez sur une recherche, il ne faut quand même pas rêver. On n'a jamais une idée géniale tout seul dans son coin. C'est-à-dire que si on a une bonne idée, c'est qu'elle vient au décours de tout un tas de problématiques que plein de gens se posent depuis des années. Vous l'avez, mais probablement qu'il y a pas mal d'autres gens qui l'ont en même temps que vous. Et donc qui ont pu aussi commencer des recherches sur cette idée-là en même temps que vous. Et après tout ce processus qui a pris des années, hein, ce que je viens de vous montrer là, ça peut prendre plusieurs années, vous arrivez et hop, vous apercevez que au moment où vous alliez publier, bah finalement il y a quelqu'un d'autre, une autre équipe, qui publie la même chose que vous. D'accord. Voilà. Donc il faut savoir se rebooster. Et puis même si vous arrivez à publier, de temps en temps, vous avez à la suite de votre publication un autre auteur, un autre chercheur, qui va publier dans la même revue un article contradictoire ou un éditorial en disant ce qu'il vient de dire là. Ça veut rien dire, c'est pas du tout vrai. Moi, j'ai fait l'expérience, ça marche pas du tout comme ça. Ce qu'ils racontent, ce sont des sornettes, et ça vaut rien. Voilà. Donc, c'est ça aussi le parcours, ce que j'appelle le parcours du combattant, du scientifique. Il faut être conscient que c'est ça votre critère. Hein. Ce sont les publications. Alors, en matière de motivation, moi, j'ai pris l'exemple du sportif, mais on peut prendre l'exemple de l'acteur de théâtre, si on pense à Dujardin, ou d'un chanteur, ou voilà. Pour le sportif, quelles sont les motivations? Bon, d'abord, il y a un plaisir personnel quand on fait du sport. J'imagine que vous faites, il y en a plein d'entre vous qui font du sport. J'espère. Dans le sport, ou même un sport intellectuel, si vous voulez. Ça peut être les échecs, ça peut être... Il y a dans le sport toujours un plaisir personnel, c'est comme ce qu'on recherche aussi, d'accord. Il y a après la notion de satisfaction, de se positionner par rapport à d'autres. Après, il y a la fierté d'avoir gravi quelques échelons, d'avoir de progresser. Puis après, il y a le fait de gagner. Alors on gagne petit dans des petites compétitions, puis ensuite d'abord local, et puis départemental, puis régional, puis national, et puis pourquoi pas en international. Et puis après, on court un peu après la célébrité, on commence à être connu, célèbre, etc. Hein, ça grimpe. Puis après, on essaie d'avoir des médailles, d'accord. Et puis le summum, c'est quand même la médaille d'or olympique, d'accord. Donc ça, c'est une espèce de motivation, de course en avant du sportif. Écoutez, pour le chercheur, finalement, c'est pas très différent. La motivation première, effectivement, quand vous êtes seul devant votre recherche, face à vous-même, il y a un challenge personnel. Donc, il y a à peu près l'équivalent d'un plaisir personnel intellectuel. Il y a un challenge personnel. Résoudre un problème, comprendre soudainement quelque chose, avoir une idée intéressante, c'est quelque chose qui relève du challenge personnel. Après, il y a aussi cette notion de satisfaction de se positionner. D'accord ? Il y a un rapport au social. On n'est plus seul, on est dans un groupe social. Après, il y a la reconnaissance de ses pairs. Je vous parlais des pairs tout à l'heure qui sont généralement vos reviewers quand vous voulez publier. La reconnaissance des pairs, c'est-à-dire que les autres qui travaillent dans votre domaine vous reconnaissent comme étant sérieux, ayant été capable de produire des avancées dans votre domaine. Voilà. Ça, c'est une motivation importante. La notion de compétition, elle existe bel et bien. Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure dans les publications. La recherche scientifique aujourd'hui, c'est de la compète. Je ne sais pas si on aura le temps, mais on pourra reparler de la découverte du VIH et la guerre qu'il y a eu entre la France et les États-Unis, qui est allée au plus haut niveau, au niveau des États, au niveau des chefs d'État, avec des enjeux économiques en plus considérables. Donc, j'ai pas mis le mot guerre parce que c'est un peu fort, mais c'est une compétition sévère, la recherche. Et alors, c'est pas seulement la compétition entre vous, votre équipe, et puis l'équipe australienne ou japonaise ou canadienne, non, c'est des compétitions en France. Et puis en France, c'est la compétition au sein de votre université, au sein de votre unité, parfois même au sein de votre équipe. La compétition, elle est à toutes les strates. Comme partout. Absolument. Mais c'est ça que je veux vous faire comprendre. C'est que, voilà, c'est pas une bulle. La recherche, c'est pas... Les chercheurs, ce sont pas des anges dénués de névrose et qui sont comme ça dans les purs et qui ne pensent qu'au progrès de l'humanité. Non. Ce sont, comme tous les autres, des humains. Ils courent après la célébrité, clairement. Combien de chercheurs, parce qu'ils n'arrivent pas à publier dans une grande revue, font une déclaration à la presse et sont publiés dans les grands journaux et passent à la télé? Voilà, faute d'avoir publié dans un grand journal, ou essaye de faire les deux. Et puis, ce que j'ai dit, les publications et les distinctions, très importantes pour les chercheurs, comme pour un élève, un tableau d'honneur, une médaille, voilà, ça, on change pas, hein. On vieillit, c'est tout. Hein. Et puis, le summum du summum, c'est le prix Nobel. Ça paraît être un clin d'œil, mais je peux vous dire que je suis entouré de gens qui, le matin, en se rasant ou en se maquillant, ils pensent souvent. Ils se disent, finalement, peut-être que je suis nobélisable. D'accord ? Ça fait partie du fantasme, quand même, du quotidien du chercheur. Donc voilà. Donc le chercheur, encore une fois, ça n'est pas un ange épuré et parfait. C'est un humain avec toute sa complexité et toutes ses motivations. Alors qui peuvent effectivement, quand elles sont présentées de façon officielle, apparaître comme tout à fait louables, mais ça n'est pas toujours ce que l'on croit. D'accord ? Alors quelques mots de quelques chercheurs. Bon, Alphonse Lavrange, je vous en parle parce que moi je travaille sur la malaria, sur le paludisme, et qu'Alphonse Lavrange était un prix Nobel de médecine sur le paludisme. Voilà, découverte finalement assez simple, hein. Il était en Algérie, il était médecin militaire. À l'époque, le paludisme c'était considéré comme une humeur, et en particulier c'était des fièvres que l'on contractait quand on était dans des zones marécageuses, donc voilà, d'où le nom malaria en latin, mauvaise air, hein, ou paludisme, palude ça veut dire les marais, donc des fièvres qu'on attrapait en respirant le mauvais air autour des marécages. Voilà. Donc c'était ça l'idée. Puis on ne savait pas du tout à quoi c'était dû. Et lui, il a regardé du sang entre lame et lamelle, hein, sans coloration, rien. Hein. Il a pris une goutte de sang d'un patient qui souffrait de cette fièvre. Il a regardé entre lame et lamelle au microscope. Et puis il a vu que ça bougeait. Il a vu quelque chose bouger. Et voilà, c'est comme ça. Et comme ça bougeait, il a appelé ça vivax. Vivax. Et c'est comme ça qu'on a découvert le plasmodium vivax, agent, l'un des agents du paludisme humain, qui finalement, en fait, ce qu'il a vu, c'est l'exflagellation des gamètes mâles de plasmodium, et non pas du tout le parasite tel qu'on le voit aujourd'hui et tel qu'on le connaît aujourd'hui dans le sang circulant. Mais peu importe. En tout cas, il a été le premier à observer quelque chose. Hein. Alors ça, c'est un cas de figure. Alors, Henri Laborie, je vous en parle parce qu'il m'a beaucoup influencé quand j'étais adolescent, à peu près à votre âge. Je vous conseille, si vous êtes intéressé par le comportementalisme, c'est une approche psychologique par le comportement. Je ne sais pas si vous avez vu un film qui est sorti il y a longtemps, qui s'appelle Mon oncle d'Amérique. Mon oncle d'Amérique, c'est un film pour lequel le conseil scientifique était Henri Laborie, et c'est une histoire intéressante qui regarde l'observation, qui observe les gens dans la société. C'est une histoire, une fiction, et de temps en temps on coupe, on ne voit plus les personnes en train de discuter ou de s'engueuler ou d'être en conflit ou dans des rapports difficiles, et hop, on passe au laboratoire et on voit des rats, et le parallèle se fait entre l'humain et les rats, et ils essayent de montrer que finalement c'est une affaire de comportement et que les rats se comportent de la même façon. Voilà. Et Henri Laborie, j'ai eu la chance de le rencontrer, de participer à ses conférences. Et voilà. Alors ça, c'est typiquement aussi, c'est un monsieur qui était à la fois chirurgien, qui a découvert les premiers neuroleptiques. Enfin, je veux dire, c'est une grande sommité. Là aussi, pour des raisons de prise de position, de conflit par rapport aux autorités de l'époque, etc., n'a jamais eu le prix Nobel qu'il aurait largement, largement mérité. Voilà. Je passe vite. La découverte du VIH, une histoire incroyable, vous avez dû la voir. Ils ont repassé un film sur la découverte du VIH au 1er décembre, puisque c'est la journée du sida, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui reprend toute cette saga. C'est réellement une saga, c'est quelque chose d'inimaginable, cette découverte. Donc en fait, le patient était dans le service du professeur Marc Gentilini, où j'ai travaillé pendant très longtemps, puisque je suis un élève du professeur Marc Gentilini. Willy Rosenbaum était assistant à l'époque dans le service, et il arrivait de Bichat. Il avait intégré le service à la Pitié Salpêtrière, et ça faisait déjà les premiers cas de sida étaient connus depuis le début des années 80-81, et on ne savait pas ce que c'était, et tout le monde était assez inquiet malgré tout sur la contagiosité, sur voilà. Et c'est donc Willy Rosenbaum qui a eu l'idée de se dire, et là aussi c'est pas que de la chance, c'est parce qu'il y a tout un raisonnement. C'est-à-dire, ce patient qui fait ce symptôme, il a des ganglions. Moi, je me dis que s'il y a quelque chose, ça doit se trouver dans les ganglions. Donc, il a fait un prélèvement ganglionnaire. Et ce prélèvement ganglionnaire, il l'a amené à l'Institut Pasteur. Entre le métro Chevaleret et le métro Pasteur, c'est sur la même ligne, c'est à la ligne 6. Et il y a 10 stations. Donc, il a pris sa glacière, il a emmené lui-même le ganglion dans la glacière en prenant le métro. À l'Institut Pasteur, qui est-ce qui travaillait sur les rétrovirus à l'époque? C'était M. Guy Montagnier. Il travaillait sur les rétrovirus du chat. Peu de gens s'intéressaient aux rétrovirus. Voilà. Et puis dans ce laboratoire, dont le directeur était ici et les deux assistants, les personnes ont pris en charge le prélèvement, ont cherché. Le vendredi soir, on finit par trouver ce virus. Qui a été la première image que vous avez tous vu partout dans la presse, ce premier virus, cette première image du virus de l'immunodéficience humaine acquise. Voilà. Bon, ensuite, le professeur Gallo aux États-Unis a prétendu qu'il avait la même chose. C'est pareil, c'est que on a des échanges, comme je vous le disais tout à l'heure, entre chercheurs du monde entier. Quand on travaille sur un même sujet, on échange. On s'échange dans les congrès, mais on échange par courrier, de plus en plus maintenant par voie électronique. Et puis aussi, on s'échange des prélèvements, parce qu'il y en a qui savent faire des choses qu'on sait moins bien faire, et voilà, on se complémente. Et donc, Guy Montagnier, un peu naïvement, avait envoyé des prélèvements à Gallo en disant, tiens, regarde, est-ce que tu trouves aussi ça? Moi, je pense... Et Gallo, lui, était parti sur une autre hypothèse, sur un autre virus. Voilà. Bref, il y a eu un conflit, il y a eu un petit peu, voilà, il n'a pas été très très honnête, outre-Atlantique. Et puis voilà, il y a eu cette guerre de la découverte. Parce que la guerre, c'était non seulement de découvrir le virus, avec ensuite, quelques années plus tard, nombreuses années plus tard, un prix Nobel à la clé, puisqu'ils ont eu le prix Nobel en 2008, mais aussi des enjeux économiques. Il y avait un test de dépistage qui a permis à un Louis Pasteur de vivre de ses recettes pendant 20 ans, hein, puisque c'est la durée légale du brevet. Donc c'était aussi un enjeu économique absolument considérable. Voilà. Voilà, une histoire. Tout ça pour vous montrer que la science, là aussi, c'est pas quelque chose qui est hors de l'humain. On est en plein dans l'humain. Là, on est en plein dans des histoires, comme il peut y avoir des histoires de voisinage. La recherche s'appuie considérablement sur les techniciens. C'est eux qui connaissent les tenants, les aboutissants. C'est eux qui sont au réel contact de la pratique. Les ingénieurs, en particulier en biologie, mais aussi en physique, dans tous les domaines de la science, l'ingénieur a un rôle majeur. Alors, il y a ce que j'appelle le chercheur d'idées, le jeune, c'est-à-dire que, là aussi, il faut se dire que quand vous lancez dans une carrière, dans une vie de recherche, votre pic d'activité intellectuelle, allez, on va dire que le pic sera aux alentours de 25 ans, donc vous allez être au top entre la fin de vos études et, allez, jusqu'à 30-35 ans, et après ça décline. Moi, je ne vous dis pas où j'en suis là. Donc, en fait, les grandes recherches, les grandes idées, elles naissent dans des cerveaux de gens jeunes. Voilà. D'accord ? Donc, il faut donner le maximum, se donner les moyens, et en termes de société, il faudrait que la société, donne le maximum de moyens aux jeunes. C'est eux qui trouvent, c'est pas les vieux. Les vieux, après, ils trouvent de l'argent pour que les jeunes travaillent. Je caricature. Après, voilà, les plus âgés, ils cherchent l'argent. Les chercheurs de fonds, voilà, nous, quand on passe un certain âge, bien sûr qu'on a des idées, on a l'expérience, voilà, on peut guider, mais on est surtout là pour trouver de l'argent, pour aider les jeunes à faire valoir leurs idées. Après, il y a un autre métier que sont les vulgarisateurs. Voilà. Il y a des gens dont c'est le métier, des journalistes, des... Hein, et puis, il y a aussi des chercheurs qui ont cette capacité de faire passer la complexité de la recherche et de la science dans le grand public. Et ça, c'est important. On en connaît quelques-uns, on va en voir quelques-uns rapidement. Donc, les journalistes scientifiques, qui très souvent sont des scientifiques de formation, etc. Donc, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas seulement en santé, il n'y a pas que le médecin. En biologie, il n'y a pas que le biologiste. D'accord ? Il y a tout un tas de métiers qui s'emboîtent les uns aux autres et qui font qu'une recherche peut se faire. Alors, des vulgarisateurs, Yves Coppens, par exemple. Vous avez tous été, je pense, imprégnés, exposés au film, à cette espèce de générosité. C'est grand, moi je les appelle les grands. Ils ont atteint un tel niveau de connaissance et d'assimilation que, voilà, lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils respirent, lorsqu'ils transpirent, ils arrivent à transmettre leur expérience, voire leur génie. Donc Yves Coppens fait partie de ces gens qui arrivent à vous passionner sur parfois des choses qui au départ n'étaient peut-être pas si passionnantes à première vue. D'accord ? Vous connaissez tous Yves Coppens déjà ?
Non.
Non ? Vous n'avez jamais vu ces documentaires ou des interviews ? Non. Vous avez sûrement vu plein de films sur l'Odyssée de l'espèce, des choses comme ça, dont le conseiller scientifique était Yves Coppens. Alors, Hubert Reeves, vous connaissez Hubert Reeves ? Non ? Hubert Reeves, c'est un astronome. C'est pareil, il arrive à parler au grand public. Au moment, c'est au mois d'août, la nuit des étoiles. Vous avez tous suivi la nuit des étoiles déjà, non ? Voilà. Souvent, la nuit des étoiles, Hubert Reeves est là et... Voilà, il vous parle des étoiles, du cosmos, des choses particulièrement complexes finalement, mais avec des mots très simples et une passion et une fougue qui fait que voilà, vous arrivez à être transporté par ce type de scientifique. Voilà, Georges Charpak, vous connaissez Georges Charpak quand même, physicien, prix Nobel de physique français. Voilà, Georges Charpa, qui, pareil, il sait parler, et en plus, voilà, il était aussi, ça ne le gênait pas, voilà, d'écrire des livres comme ça, L'enfant et la science, L'aventure de la main à la pâte. Vulgariser la science, c'est pas quelque chose de dégradant. C'est au contraire, à mes yeux, quelque chose de très noble. Voilà, alors je vais passer vite là-dessus parce que j'aimerais quand même que vous me posiez quelques questions et qu'on discute. Ça, ce sont les. Pour vous montrer toutes les découvertes qui ont été faites ces deux dernières années dans des domaines très variés, hein, sur les fossiles, avec des choses qui remontent à 4 milliards d'années, vous voyez, 4 milliards et demi d'années, avec des lasers qui traquent les mouvements des électrons. Donc aujourd'hui, maintenant, on arrive à faire des choses dans les cyclotrons en particulier qui sont phénoménaux. On peut dissocier la molécule de brome, on peut voilà. Ah ben la souris, oui, elle est soumise à dure épreuve dans la recherche biologique en général. Voilà, la plasticité cérébrale, c'est quelque chose de très très fort aujourd'hui. Néandertal parmi nos ancêtres. Là on est dans l'archéologie. Voilà. Les problèmes, tout ce qui est lié au monde marin et à la chlorophylle. Là, une bactérie dont le génome est synthétique. Voilà, on sait maintenant fabriquer des bactéries de façon synthétique. Comment obtenir de nouveaux êtres vivants. Vous voyez la progression assez rapide ces 40 dernières années. Hein. Comment générer de nouveaux êtres vivants. Le proton plus petit que prévu. Donc maintenant, on est dans les micro-microparticules, nanoparticules et voire des particules invisibles dont on détecte l'effet sans les voir, uniquement par calcul probabiliste aussi. La reprogrammation des cellules, là aussi, c'est extrêmement riche de promesses thérapeutiques au niveau de la médecine. Les premières molécules froides, la thérapie génique, voilà, qui est en pleine expansion aussi depuis quelques années. Voilà, donc des domaines, encore une fois, ultra variés. Je pense que je vous ai démontré que la recherche scientifique, ça touche, allez, on va dire, ça fait 360 degrés. Hein. Ça vous cerne. D'accord. Voilà, alors avant d'aborder les défis technologiques et les défis scientifiques, je voudrais que vous exprimiez un peu. Quelles sont vos interrogations? Quelles sont vos... Est-ce que vous avez envie de vous lancer dans la recherche? Pourquoi? Est-ce que vous n'avez pas du tout envie de vous lancer dans la recherche? Pourquoi? Vous avez peut-être aussi une expérience personnelle par votre famille, vos parents, vos proches qui font peut-être de la recherche et vous avez peut-être une idée personnelle de ce que c'est. Dites-moi. Personne n'entend, hein. Dites à moi. C'est juste entre vous et moi, oui. Pardon. Hein. Parlez bien, bien dedans.
Ça peut être intéressant, mais c'est long. C'est une démarche longue et on n'est pas sûr du résultat. Ouais.
Comme dirait l'autre, c'est pas faux. Les études qui mènent à la recherche sont des études longues. Alors il faut quand même aussi comprendre que, bien que ce soit long, vous avez tout à fait raison, hein, je ne vais pas vous contredire là-dessus, simplement on commence déjà à pratiquer pendant ces études. C'est-à-dire que pendant que vous êtes dès le Master 2, hein, en Bac plus 5, vous commencez déjà à faire de la recherche. Master 2, c'est une moitié, enfin 3 mois d'enseignement théorique, et puis 6-7 mois de recherche plein temps. D'accord. Donc dès le Master 2, vous êtes déjà dans la recherche. A fortiori, quand vous êtes pour vous préparer votre PhD, votre doctorat, en doctorat, vous faites 3, parfois 4 ans de doctorat, c'est de la recherche. Vous êtes étudiant, c'est de la recherche. D'accord. En post-doc, post-doctorant également. Donc, c'est long, je suis tout à fait d'accord avec vous, avant d'avoir un statut, et avant d'avoir intégré un organisme avec un vrai job, mais l'activité de recherche commence finalement plus tôt que cela. Je vais au fond, hein. Je reviens. Ouais. Des questions, des réflexions, ce qui vous passe par la tête. Tenez. Non, voilà. C'est Émilie, c'est ça? Non, c'est pas intimidant, non, c'est entre vous, vous me parlez qu'à moi.
Voilà. En ce moment.
Ah, prenez celui-là.
Vous travaillez sur quoi en ce moment?
Alors, très très précisément, là, en ce moment, au moment où on parle, là, je suis en train de préparer un protocole d'essai thérapeutique que je dois soumettre très 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 bientôt. Normalement, la date limite, c'est demain soir, donc vous voyez, je suis un peu chaud, là. Pour essayer une nouvelle molécule qui permettrait de mieux traiter les gens qui souffrent d'accès palustre grave, de neuropaludisme. Le paludisme peut donner des complications sévères, dont le taux de mortalité peut être élevé. Donc cette molécule qui n'est pas un antipaludique, mais qui est ce qu'on appelle un adjuvant, qui viendrait traiter les effets délétères liés au paludisme, et qui pourrait probablement, enfin c'est en tout cas l'objectif, empêcher un certain nombre de décès dus à cette complication. Voilà. Donc ça c'est un travail spécifique actuellement, très précis, donc sur la malaria et en particulier sur les aspects thérapeutiques.
J'ai un exemple concret par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Au niveau de la recherche, j'ai ma fille par exemple qui a fait un master et qui a commencé à faire travailler de la recherche à l'Institut Pasteur à Lille, et elle a été prise ensuite pour faire une thèse et au départ travailler sur le paludisme également. C'est assez amusant. Alors pour répondre également à ce que disait Jean-Lon, effectivement il faut travailler, il faut en avoir envie, et puis elle va travailler le dimanche parce que ça la passionne. Donc je crois qu'en fait ce qui fait avancer la recherche, c'est la passion aussi.
Non mais je voudrais rebondir parce que c'est essentiel. Vous avez vu les complications, je vous ai décrit les aspects pas toujours faciles, pas toujours, même humainement, pas toujours... Voilà, on est dans un milieu rude, compétitif, ouais, éviter le larcène. Mais effectivement, si on arrive à tenir, et la raison pour laquelle on tient, au-delà de la pugnacité dont je vous parlais tout à l'heure, c'est qu'on a une motivation énorme, c'est la première dont je vous parlais tout à l'heure. C'est ce challenge personnel, cette satisfaction personnelle, celle du sportif qui est tout seul à l'entraînement, au petit matin, dans la brume, et qui fait son tour de piste sur le stade. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de photographe, il n'y a pas de médaille. Voilà, c'est juste lui par rapport à lui. Et c'est ce rapport-là à votre challenge qui doit être le premier moteur. Donc voilà, effectivement, il faut une passion dans ce que vous faites. Il faut y croire, il faut aimer ça. Sinon, tout est fait pour vous décourager, j'allais dire, si je veux caricaturer un peu. D'autres questions? Oui.
Il y avait les bouchers, parce que...
Parlez. Continuez.
Il n'y a pas forcément de travail disponible dans les laboratoires. Donc est-ce qu'il y a...
Je craignais cette question parce que c'est là où effectivement on risque de rapidement décourager votre génération. C'est que la recherche, c'est quelque chose qui est d'abord pas lucratif, il faut savoir. Si vous voulez faire de l'argent, il ne faut surtout pas faire de la recherche, faire du business, il faut faire certainement pas de la recherche. Donc déjà, il faut savoir que ça peut pas être l'appât du gain qui peut vous conduire à la recherche. Pour autant, on a quand même besoin de vivre et de vivre à peu près décemment. En France, aujourd'hui, la recherche est très peu considérée. Très peu considérée, très peu soutenue. Je pense beaucoup moins que dans beaucoup, beaucoup d'autres pays. Voilà. Ça se passe un peu mieux ailleurs. Il y a plus de soutien. Alors c'est une des raisons pour lesquelles, effectivement, on a ce qu'on appelle une fuite des cerveaux. On a de bons chercheurs en France, et en particulier, comme je vous le disais, des jeunes, bons. Et entre les conditions qu'on leur propose ici et les conditions qu'on leur propose rapidement ailleurs, ben ils partent. Ils partent aux États-Unis, ils partent au Japon, ils partent à Singapour, ils partent au Canada, ils partent même ailleurs en Europe. Parce qu'il y a une autre considération, pas nécessairement matérielle, mais une autre considération. Pouvoir intégrer un organisme de recherche, que ce soit l'INSERM, le CNRS, quel qu'il soit, c'est quelque chose de plus en plus difficile. Il faut avoir un niveau et un dossier extrêmement élevé pour pouvoir intégrer ces organismes. Ça, c'est pour la recherche publique. Après, il y a le privé. Voilà, toute la recherche dans le privé, si on parle de santé, si vous parliez de biologie tout à l'heure, je ne sais plus, non, l'industrie pharmaceutique, il y a des chercheurs, il y a des milliers de chercheurs dans l'industrie pharmaceutique. Ils ont bien été formés quelque part. Donc il y a des débouchés aussi dans le privé. Avec des objectifs qui ne seront pas nécessairement... Enfin, un mode de travail ne sera pas nécessairement le même. Dans le public, vous allez mener vos recherches. Voilà. Dans le privé, il faudra avoir des objectifs précis qui auront été dictés par des politiques spécifiques. Pour autant, j'allais dire, il ne faut pas que ça vous décourage. Parce que bon, la vie est difficile et l'emploi est de plus en plus difficile dans pas mal de secteurs. Alors peut-être moins dans le secteur informatique, peut-être moins dans d'autres, mais au final, ce qui compte, au quotidien, dans votre vie au quotidien, ce qui compte, c'est de se faire plaisir quand même, dans votre boulot. Donc si vous avez un job, parce que vous avez choisi la recherche, effectivement, vous galérez un peu, c'est pas facile sur le plan matériel, c'est il n'y a pas une sécurité d'emploi extraordinaire, mais vous faites plaisir au quotidien. Voilà, après, c'est une question de philosophie. Hein. C'est quand même quelque chose de phénoménal. Quand vous arrivez à publier quelque chose qui est le fruit de votre réflexion, de votre travail de plusieurs années, que vous le présentez à un congrès devant vos pairs, et que c'est apprécié, etc. Voilà, vous avez une vraie satisfaction profonde. Effectivement, le compte en banque ne suit pas. Mais voilà. Et vous avez raison, les débouchés en recherche, et en France, et de plus en plus aujourd'hui, ne sont pas, ce qu'on fait de mieux dans le monde, ça c'est clair. D'autres questions, réflexions ? Qui est déjà aujourd'hui déterminé de se dire « je vais faire de la recherche » ? Personne ? Non. Personne de décider. Président de la République, oui. Président de la République, mais pas de recherche. Mais il faut se préparer tôt aussi, hein. Faut vous préparer tôt. Hein. Alors, bon, je vais passer vite parce que ce sont des choses un peu théoriques, mais les grands défis technologiques du siècle dans lequel on est rentré, là, depuis 12 ans. C'est une course en avant, c'est l'environnement, là vous l'avez tous compris, les techniques de l'information et de la communication, ce qu'on appelle les TIS, enfin les TIC ou les TIS, techniques d'information et de la communication pour l'enseignement, qui sont une partie des TIC, les transports sont un défi technologique du siècle qui vient, l'énergie évidemment, enfin les énergies, la santé et l'espace, voilà, les grands. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, hein. ce sont des rapports de scientifiques qui réfléchissent sur tout ça et qui ont considéré que c'était les sept grands défis technologiques du siècle dans lequel nous sommes. Après, il y a des techniques, des défis scientifiques. Alors, l'un de ces défis scientifiques, c'est la crise générale de la pensée scientifique. Alors, le paradigme dominant, la notion de paradigme, c'est la théorie dans laquelle nous sommes. Voilà. Il y a dans un domaine défini de la science, il y a ce qui est admis, et c'est un petit peu l'architecture dans laquelle de ce domaine-là, de cette discipline, dans laquelle on navigue. Donc, c'est le paradigme. Et que les gens peuvent continuer à élaborer, compléter, améliorer, mais on ne remet pas en cause l'architecture générale. Okay. Et puis de temps en temps, il y a des gens qui osent casser tout ça et dire le paradigme est faux. On va changer de paradigme, on va changer de structure. Les axiomes, les hypothèses, les acquis, ce qui est considéré comme... on l'abandonne et on en trouve un nouveau. Okay. Et là, on est dans ces phases-là un petit peu de remise en cause des paradigmes dominants. La crise générale actuelle va porter surtout sur les sciences physiques, biologiques et sociales. Quand on a dit ça, on en a couvert pas mal déjà. Et beaucoup de chercheurs pensent que nous sommes un peu au XXIe siècle, hein, au niveau scientifique, à un tournant, hein, qu'il va se passer quelque chose. On est arrivé à un plateau, et le plateau, il va y avoir une courbe, une cassure à un moment donné dans le siècle qui vient, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, mais on est sur quelque chose de différent, on n'est pas sur une continuité par rapport au siècle passé. Voilà, donc je voulais faire le point. Est-ce que c'est les thèmes actuels? Quelle reconversion des bouchers, on en a parlé. Le quotidien du chercheur. Je n'ai pas trop posé de questions sur les études, sauf qu'elles étaient effectivement longues, c'est vrai. Démarche scientifique, exemple de découverte. Est-ce qu'on a passé en revue à peu près les objectifs? Entrevoir l'étendue des sciences. Vous êtes convaincu que la variété est quand même immense. Un aperçu de la vie des chercheurs, un petit bout, hein, juste un petit bout, je vous ai montré. Donner envie, je ne sais pas si je vous ai donné envie, pas vraiment, non, mais de toute façon il va être président de la République, donc il fait partie, je ne pouvais pas changer son avis. Vous convaincre de l'omniprésence de la science, on n'a pas beaucoup parlé, mais je pense que vous en êtes déjà convaincu. La science, elle est absolument partout, elle est. Voilà, monsieur, c'est comment votre nom? Vous-même?
Moi? Durand.
Monsieur?
Durand.
Durand, voilà. Il est derrière une caméra numérique.
Qui brise un petit peu les cloisons et les murs. Et là, il a, bon, son titre est évidemment un peu provocateur, dépasser Darwin. Voilà, remettre en cause un petit peu les théories. Là, on est dans ce que je disais tout à l'heure, briser certains paradigmes, changer de paradigme. Admettre que Darwin avait raison en son temps, mais qu'aujourd'hui, ce qu'on sait de l'évolution des espèces nous autorise à remettre en cause le darwinisme. Voilà. Ça en choque beaucoup, ce sont des débats extrêmement forts qui ont lieu même dans le grand public, hein, les pros, les anti-darwinistes, parce qu'en plus derrière il y a eu à une époque des théories sociologiques, voire politiques, qui étaient rattachées à différentes théories, mais voilà, on peut aussi de temps en temps avoir le droit de remettre en cause les acquis en les faisant progresser. L'idée c'est pas de démolir, c'est de progresser. Voilà. J'ai essayé de respecter le temps. Si vous avez, on a encore quelques minutes. Si vous avez des commentaires, des réflexions. Non? Si? Pardon.